2, 3 o'clock, 4.
Et bien voilà, c'est terminé pour cet opus du temps des copains. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci d'écouter RVE. Sur RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Un accord à minima cette nuit à la COP24 en Pologne. La communauté internationale s'est mise d'accord sur les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Beaucoup estiment ce compromis insuffisant pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, notamment parce que les engagements de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas assez ambitieux. Mais avec 30 heures de retard, le mode d'emploi d'une centaine de pages fixe déjà les modalités de suivi des actions nationales. De nombreux dirigeants politiques voient cette avancée comme une victoire. C'est le cas d'Emmanuel Macron ou de la ministre espagnole de l'Environnement qui écrit « Dans les circonstances actuelles, continuer à construire notre bâtiment est déjà une réussite ». La garde à vue des 4 membres de la famille de Chérif Chekat levée, pas d'éléments incriminants à ce stade pour continuer d'interroger ses parents et 2 de ses frères. En revanche, 3 membres de son entourage proche sont toujours entendus par les enquêteurs antiterroristes. Il s'agit maintenant d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles d'avoir aidé le tueur de Strasbourg ou de l'avoir encouragé dans la préparation de son passage à l'acte. Les ronds-points du pays occupés par des gilets jaunes jour et nuit doivent maintenant être libérés. La sécurité de tous redevenir la règle. Demande du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner alors que la mobilisation des gilets jaunes s'essouffle. 66 000 manifestants ont été recensés dans toute la France hier, soit 2 fois moins que samedi dernier. À Bordeaux-Toulouse, le nombre de manifestants était en revanche 2 fois plus important qu'à Paris, avec 4 500 personnes dans chaque ville. Et puis Miss France et Miss Tahiti Vaiamala Chavez, 24 ans, a été élue hier soir au Zénith de Lille par un jury exclusivement féminin. Diplômée d'un master de management en marketing, elle a devancé Miss Guadeloupe et Miss Franche-Comté. La dernière Miss Tahiti coiffée du précieux diadème était Mareva Galanter en 1999. Très bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bien ravi de vous retrouver pour cette émission du dimanche 16 décembre. Alors, on va rester dans la course à pied, on en avait beaucoup parlé la semaine dernière à travers le Raid 28 et puis l'épreuve de la corrida de Rambouillet. Ben, on va revenir sur cette fabuleuse soirée qu'on a vécue hier avec Jean-Christophe Mahury de Rambouillet Sport. Ça lui a tellement plu qu'il est revenu, je sais qu'il n'a pas beaucoup dormi, qu'il a été très occupé. Jean-Christophe, bonjour, merci d'abord parce que vous n'avez pas beaucoup dormi.
Oui, bonjour Philippe. Oui, la nuit a été courte. On a fini assez tardivement.
Oui. Bon, quelle soirée !
Oh oui, une soirée incroyable, pleine de choses un peu extraordinaires. On a eu un temps déplorable,
apocalyptique.
Je remercie encore tous les bénévoles qui sont venus et puis tous les gens qui ont participé à la course et puis surtout sont concourus parce que typiquement venir courir dans des conditions comme ça, bah c'est vraiment des passionnés. Voilà.
Alors effectivement, alors on aura aussi quelques interviews à passer au cours de cette émission. On reviendra sur la récente cérémonie des prix nationaux du fair play. C'était fin novembre, on vous a ramené quelques interviews. Et puis en deuxième partie d'émission, eh ben on se projettera déjà dans la prochaine épreuve de course à pied. Ça sera celle du marathon des Yvelines le 6 janvier à Cernay-la-Ville. On a eu un petit enregistrement avec Patrick Bonneau qui était retenu ce matin par des reconnaissances. Donc ça sera le menu de cette deuxième partie d'émission. Tout de suite, tiens. On a une surprise, on a, je crois, le vainqueur de cette épreuve au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, donc, dans quel état physique ce matin êtes-vous ?
Ouais, bonjour, ouais.
Oui ? Dans quel état ? Oui.
Vas-y, quoi ?
Allez-y, allez-y.
Ouais, bonjour, bonjour à tous.
Oui. Alors. Comment êtes-vous physiquement aujourd'hui, ce matin ?
Un peu fatigué, j'ai un peu mal à la tête à cause de la course d'hier. Franchement, c'est un bon super course. Ça me dérange pas, je passe quelqu'un qui connaît bien français. Moi, je connais pas beaucoup.
Bon, alors d'accord. Alors on va, mais vous restez donc à vos côtés. On voulait faire une petite surprise à Jean-Christophe ce matin, ouais. Qui va quand même nous donner le nom de donc du vainqueur, Jean-Christophe.
Ouban Milou.
Voilà, c'est Ouban Milou derrière de Coignières qui a survolé l'épreuve. Hein. Il a fait un véritable cavalier seul dès le début.
Ah oui, il a creusé complètement. Il a fait une super performance. Déjà, bonjour. Hein. Merci d'être à la radio, Ouban. Il a fait une super performance. Et puis, on le connaît bien. On le voit sur toutes les courses. Hein. Entre autres, dans les quatre châteaux, il a déjà fait pas mal de performances.
Oui. Oui, oui.
Et puis, il avait creusé dès le début. On a bien vu au passage du cinquième kilomètre qu'il avait déjà 1 minute 30 à 3 minutes d'avance. Quoi. Il avait vraiment bien creusé le trou. Quoi. Voilà, il s'est trouvé tout seul.
Voilà, alors, bon, il est un peu fatigué, parle pas un peu français, mais je crois que quelqu'un va le faire pour lui. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui? Non, parce que si vous parlez pas, ça va pas pouvoir le faire à la radio. Hein. Donc, allô?
La radio.
Oui? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut vous entendre là? Oui ou non? Bon, écoutez, on va voir ça hors antenne, on va essayer de renégocier avec vous, et puis, bah, voilà, en tout cas, on voulait faire la surprise, mais apparemment, il a pas très bien récupéré notre ami vainqueur, parce que c'est vrai que les conditions ont été très, très difficiles. Hein.
Ah bah, les conditions ont été difficiles, et puis en plus, c'était un parcours exigeant, parce que il était à moitié trail, à moitié course route, avec des côtes de nuit. On avait vraiment tous les éléments qui étaient des éléments de différenciation, hein, c'était une course qui est atypique, on l'a bien vu. On a quand même une forte participation malgré ces éléments-là. Et on a bien vu que des spécialistes se propulsaient bien par rapport à ça. Quoi. Voilà.
Alors, Jean-Christophe, comment on se prépare pour affronter, je dirais, une telle météo? Parce que les coureurs sont arrivés combien? 2 heures, 3 heures avant. Il y a un échauffement qui est important, qui est capital.
Alors oui, tous les coureurs s'échauffent. Nous, on avait prévu, comme beaucoup de courses, de faire de l'échauffement collectif. Donc on a eu cet échauffement collectif. Puis quand il fait froid comme ça, en général, on essaye de venir au dernier moment, parce que on veut pas perdre de l'énergie sur la ligne de départ, et puis on veut surtout se préserver du froid, quoi, parce que dès que le froid commence à passer au travers des vêtements et tout ça, c'est très, très, très difficile de courir, quoi.
Oui, alors, il y avait 700 inscrits, il y a eu malheureusement des défections de dernière minute.
Oui, il y a eu beaucoup de défections, hein. On va pas se le cacher, Philippe, on était enthousiaste avec nos 700 coureurs, du moins inscrits un mois à l'avance, et qu'on avait fermé complètement la clôture de la course. Bon, il faut quand même se rendre compte qu'on a eu quand même 400 personnes qui sont venues participer et qui ont fini la course. Donc c'est déjà une grande victoire pour nous, parce que ça montre que c'est des gens passionnés, qui n'ont pas eu peur spécialement des conditions climatiques. Et puis il faut voir aussi que les routes étaient glissantes, hein. Donc les gens qui venaient un petit peu de l'extérieur, je pense qu'ils sont restés chez eux, et puis ils ont eu raison, parce que pour des questions de sécurité, il vaut mieux pas avoir un accident pour une course, quoi.
Oui. Vous avez craint d'ailleurs à un moment, hein, dans l'après-midi, ça glissait un peu, vous êtes dit c'est peut-être pas très bien engagé l'affaire.
Oui, on a fait la reconnaissance du parcours vers les 1h30, 2h, hein, pour mettre la rubalise, et puis pour bien positionner les rambardes. Et puis en faisant cette reconnaissance, on a bien vu qu'il y a certains endroits sur les pavés où c'était très glissant. C'est pour ça qu'on a donné des consignes de sécurité très fortes avant de démarrer la course, pour que les coureurs fassent attention et fassent attention à ces endroits où c'est sur pavé. Et malheureusement, la commune de Rambouillet, depuis, comme la plupart du territoire français, depuis 2-3 jours, avait des températures négatives, ce qui fait que quand la pluie est arrivée dessus, bah, ça verglaçait sur le sol qui était froid. Quoi.
Mais bon, après, ça s'est un peu radouci un tout petit peu au fil de la soirée, donc bon, c'était mieux, même s'il pleuvait beaucoup.
Oui, on a remplacé le froid par la pluie. Quoi.
C'est vrai que, et même vous, hein, sur ceux qui faisaient la sécurité, chapeau quand même, parce que finalement, à l'arrivée, vous avez peut-être pris plus de risques que les coureurs au niveau santé.
Ah oui, ça, c'est, alors bon, c'est oui, on était bien couverts.
On peut choper la vie, carrément.
Ah oui, on peut choper la vie.
Plus qu'un coureur. Hein.
Oui, on s'est changé plusieurs fois de suite. Mmh. Hein, on avait plusieurs changes. On a essayé de tenir. Et puis, on a quand même une bonne bande de copains qui avons réussi à faire ça, parce que nous avions à peu près 120 à 130 bénévoles qui étaient présents, et on n'a pas eu de défection, quoi. Tout le monde était présent, vraiment. Je les remercie encore. coureurs parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Hein, et puis aussi par la municipalité qui nous a aussi bien aidés par rapport à la construction de cette course.
Oui, tout le monde était là hein, au niveau de la municipalité de la mairie. Bon, ça n'a pas été trop long pour ensuite la remise des coupes parce que ça, c'était un problème aussi. Hein. Une fois qu'on a couru, il a fait froid, il faut changer, il ne faut pas se refroidir. Donc, il faut aller très vite pour les remises de coupes.
Oui, alors on a décidé de faire un petit peu comme ce qu'on voit dans les crosses. Alors, ceux qui ont l'habitude des crosses comprendront très rapidement ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans les crosses, on n'attend pas malheureusement le dernier pour commencer à faire les résultats, pour pas que les gens attrapent froid. Mm-hmm. Et les conditions étaient tellement catastrophiques qu'on a préféré faire au fur et à mesure la remise des podiums et récompenser les gens par rapport à leur classement.
Mmh. 19h30, finalement, c'est le bon horaire hein, par rapport à celui d'il y a 3 ans.
Oui, 20h30.
20h30, pardon. Oui. C'était 19h30 il y a 3 ans, c'était pas le bon horaire, oui. Justement. C'est 20h30, voilà, c'est le meilleur horaire. Hein,
oui, 20h30.
Parce que les commerçants ont fermé, donc voilà tout. Alors, la voie est libre.
La voilà, c'est ça. On arrive avec peu de contraintes dans la ville. Le nouveau parcours ne monopolise pas, ne bloque pas toute la ville, mais bloque que la grande rue. On la privatise entièrement pour la sécurité des coureurs. Et puis, on se rend compte que lorsqu'on est dans le parc du château, eh ben ça se passe bien, c'est bien fluide, on n'a pas d'ennui. L'ancien parcours qu'on avait un gros défaut, c'est qu'il passait le long de l'hôpital. Mmh. Et donc, pour des questions de sécurité, on ne pouvait pas privatiser le parcours. Donc, on était obligé d'avoir des voitures en même temps. Là, le fait de privatiser et de courir de nuit dans le château, ça donne un côté féerique avec des lucioles.
On les voit sortir illuminés. C'est fabuleux, c'est l'image de la ville.
Oui, c'est ça. C'est comme qu'on avait mis. On avait mis une course des lumières de la ville. Ben, ça, c'est les lumières des coureurs maintenant.
Mmh. Très bien. Alors, on va donner le classement. Bon, notre ami vainqueur, visiblement, il n'a pas récupéré. Hein, et donc, on va le laisser tranquille. On voulait avoir un tout petit peu ses confidences, mais apparemment, il n'a pas encore bien récupéré. C'est dire que ça a été une épreuve très, très difficile. Hein.
Oui, c'était une épreuve très, très, très difficile. En plus, il avait creusé le trou dès le début. Oui. Et puis il s'est retrouvé tout seul. Souvent, on a un groupe de 3-4 coureurs qui règlent leur compte entre guillemets sur les deux derniers kilomètres, sur un 10 kilomètres. Là, il avait creusé dès le début et il a fait la course en tête et de nuit. Donc c'est assez courageux.
Et puis il était transit froid et ce matin, il a pas encore bien récupéré visiblement. Donc on va respecter naturellement donc son choix de plutôt se reposer quoi.
Oui, on va reposer. Donc le second. C'est un vétéran 2, alors pour montrer qu'on on a quand même tout type de coureur, hein, qui s'appelle Christophe Després, hein, qui est arrivé derrière et qui a bien couru aussi.
En combien de temps l'écart est de combien? Il est, je crois, de plus de 2 minutes à peu près.
L'écart. Il est de 3 minutes hein, vraiment que ça avait vraiment beaucoup creusé pendant la course, où il est de 3 minutes. L'écart est de 3 minutes.
Donc le vainqueur a fait 36 minutes et 26 secondes. C'est pour que les auditeurs savent un peu.
Le vainqueur a fait 36 minutes et 26 secondes. Alors, en termes de temps, quand on est sur des courses sur route, c'est pas des temps énormes qu'on voit d'habitude sur des premiers. Hein. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une course de nuit, donc on va beaucoup moins vite.
Ouais, oui.
Et puis, de l'autre côté, c'est une course en nature. Lorsqu'on était dans le parc du château, il y a des côtes, il y a des descentes. Il y a des chemins avec de la boue un petit peu, donc c'est vraiment un bel exploit. Hein. Ça fait une très belle moyenne. Hein. On arrive à une moyenne de 16,4 km/h, qui est quand même une bonne moyenne sur ce type de parcours de nuit. Hein. Ça en fait quelques-uns aimeraient bien les faire, hein. Même de jour. Et puis le troisième est Bernard Crozat. Qui a fini en 39 minutes 37, hein, qui était, ils étaient assez serrés, hein, le deuxième et le troisième sont arrivés à peu près ensemble, il y avait 10 secondes d'écart, donc il y avait quand même de la bataille pour la troisième place, quoi,
pour Rambouillet Sport?
Rambouillet Sport, nous,
tout sur le terrain, donc.
Oui, on était vraiment sur le terrain. Ouais. Voilà, on était vraiment sur le terrain. Et
on a vu des coureurs de Rambouillet Olympique, par contre.
Oui, il y avait quelques coureurs de Rambouillet Olympique, entre autres Christophe Sanson, hein, qui aurait pu figurer sur le podium, qui est malheureusement fini quatrième.
Ah ouais,
il n'était pas très très loin. Non, non. Et il manquait pas grand chose. mais je pense que la prochaine fois, il sera sûrement sur les trois premiers.
Et la première féminine, donc Jean-Christophe.
Ah bah, hein, la première
pas,
féminine.
Faut pas les oublier, les féminines.
Ah non, non, faut jamais.
Surtout qu'elles étaient aussi nombreuses pratiquement que les hommes sur cette épreuve. Hein, donc c'est dire. Hein.
Oui, elles étaient aussi nombreuses.
Ouais.
On avait l'équité entre les hommes et les femmes. Mmh. On avait l'équité entre les hommes et les femmes. La première féminine est Carole Frima.
Oui.
Qui fait un très très beau temps de 47 minutes et 37 secondes.
Ouais, c'est fabuleux.
Oui, oui. Pour te donner un ordre d'idée, elle fait quand même 45e au scratch par rapport à ça. Donc, c'est quand même un très très beau temps. Mm-hmm. Elle était suivie de Valérie Caradoc, qui fait un temps de 48 minutes et 26 secondes. Elle était à peu près une minute derrière. Donc on peut voir aussi que pour les féminines, c'était un petit peu la même course que pour les masculins. La première féminine a creusé un petit peu le trou et a réussi à finir. Et puis, ça se bataillait un petit peu sur la troisième place, parce qu'entre la troisième et la quatrième place, ils sont juste l'une derrière l'autre, à 6 secondes d'écart. Hein. Et c'est Magali Verrien qui finit troisième. Donc, c'est des noms connus. Hein. On a l'habitude de les voir sur les podiums. Hein. Mm-hmm. C'est des gens qui marchent bien. Quoi.
Bravo à toutes et tous. Combien termine cette épreuve?
Alors, 410 personnes terminent sur l'épreuve. Hein, mm-hmm. 410 personnes. Comme je disais, on est à 70% d'inscrits, du moins de participants, 60%. Au vu des conditions climatiques, c'est tout à fait normal. Je pense que l'année prochaine, on espérera, on priera pour avoir un temps un peu plus sympathique.
Tout le monde va s'en rappeler. Hein.
Ah oui, j'espère que ça
découvre. Ça fait partie des grands événements sportifs qu'on a vécu.
Oui,
hein, dans
c'est
les
ça.
Conditions, là, c'est sûr. Hein, c'est malheureux de le dire pour les concurrents, mais c'est vrai que c'est fabuleux pour les spectateurs. Quoi.
C'est ça, pour les spectateurs, c'était très très sympa. Oui. J'espère que ça ne découragera pas les concurrents de l'année prochaine, mais bon, en général...
Ils reviendront déguisés en Père Noël, comme c'était le cas, ou en sapin de Noël.
Oui, alors cette année, on a aussi récompensé les meilleurs déguisements. Entre autres, il y avait un sapin de Noël, il y avait une licorne qui se baladait, un sapin tout illuminé. Donc c'était vraiment très très festif. C'est vraiment le côté qu'on cherche, hein, c'est le côté festif.
Oui, alors on l'a dit, l'année prochaine, donc ça veut dire qu'il y aura une troisième édition, ça y est, c'est fait. Vous avez trouvé votre rythme. On parlait du SMI Marathon de Rambouillet, hein, qui est une institution, hein, qui va fêter sa 33e édition, je crois, en mars prochain, hein, antériorité de ce SMI. La course du château, qui même si elle a été remodelée, a aussi maintenant donc sa place dans le calendrier au mois d'avril. Et puis vous, au mois de décembre, en pleine corrida, dans un Rambouillet illuminé par les décorations Noël et avec une patinoire.
C'est ça, on a trouvé notre place, on a trouvé notre rythme, on a trouvé notre parcours. J'ai le sentiment qu'on a passé un pas entre la course de 2015 la course de cette année, et que on va sûrement pérenniser cette course et peut-être même l'améliorer, parce que on se rend compte qu'on a un parcours de 5 km. Ce parcours de 5 km qui est fait de boucles, on pourrait très bien l'améliorer, soit par faire un relais, soit faire une course de 5 km, soit mettre peut-être une course enfant. On va se réunir. Alors, c'est vrai qu'on a 3 mois pour décider, parce qu'en général, la construction d'une course, c'est 9 mois. Parce qu'il faut créer les bulletins, il y a tout un tas de choses. Donc on va avoir 3 mois de réflexion et de retour, un petit peu d'analyse, pour voir comment on peut améliorer cette course, peut-être agrandir aussi le nombre de coureurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'à 400, bah, ça passe très très bien. Peut-être faire plusieurs départs, on verra avec Gérard Grivel qui est l'organisateur.
Ah, il était 5000 volts hier.
Gérard, c'est le chef d'orchestre des courses. Ah, ouais. C'est vraiment une personne qui est très sympathique, hein, j'espère qu'il récupère, parce que c'est vraiment des moments très très durs avec sa femme Martine. C'est vraiment des moments où il y a énormément de stress. Et on voit bien, petit à petit, plus la date approche, plus la pression monte. Et une fois que c'est arrivé, ben voilà, il faut quelques jours pour se remettre, parce que la pression descend, comme tous les organisateurs. Quoi.
C'est... Oui, c'est normal. Hein. Oui. Ben, la preuve, c'est que les conditions météo, ça pouvait avoir des conséquences et des incidences sur le survie de l'épreuve. Hein.
Oui, tout à fait. Alors surtout qu'on passe par le parc du château. Oui, alors il y a des normes dans le parc du château. De mémoire, je pense qu'à partir d'un vent de 70 ou 80 km/h, on ferme le parc. On a une obligation pour des questions de sécurité, pour pas prendre des branches. On est toujours dans le fait de garantir au maximum la sécurité des coureurs. Notre but à nous, c'est vraiment de garantir la sécurité des coureurs. On ne plaisante pas avec ce genre de choses, et s'il y a le moindre doute, on préfère ne pas prendre le départ que de prendre un départ risqué. C'est ce qui s'était passé la dernière fois où on nous avait demandé de mettre en place des conditions de sécurité qu'on n'était pas capable de mettre, et on a préféré annuler la course et rembourser les coureurs.
Donc la corrida, on va rappeler pour le grand public que ce sont des épreuves de nuit en plein centre-ville. Voilà, c'est le principe même. La plus célèbre, c'est la corrida de Houille, qui se déroule toujours fin décembre, à quelques jours de la nouvelle année. Mais c'est le principe donc de ce genre d'épreuve de course à pied.
Oui, il y a la corrida de Houille qui se déroule et qui a des plateaux très très. Il y a une course élite qui est très très forte. Ils ont structuré leur corrida avec plusieurs courses, des populaires, des élites. Et c'est vraiment une course qui draine beaucoup de monde. Je pense pas que nous on arrivera à arriver jusque là.
Non, mais...
Bon, on reste une petite course dans les Yvelines.
C'est mieux comme ça, voilà. C'est sympa. Tout le monde rigolait hier, malgré le mauvais temps. C'était la fête, c'était la bonne humeur.
C'est ce qu'on souhaite. Ouais. C'est ce côté festif qu'on souhaite et ce côté partage, où les gens sont contents d'avoir couru, sont contents de prendre le départ, sont contents de partager un chocolat chaud ou une soupe à l'arrivée. Voilà, c'est ce genre d'événement qu'on souhaite.
D'ailleurs, après l'épreuve, après la mis des trophées, après avoir tout déballé, tout rangé, vous avez honoré, j'allais dire, vos bénévoles.
Oui, alors oui, après ça
c'était une belle soirée.
Oui, ça c'était une belle soirée. En général, on enchaîne derrière ce genre d'événement, on enchaîne avec les bénévoles pour se retrouver ensemble, pour discuter, échanger un petit peu, voir quels étaient les points qu'on pouvait améliorer, boire un verre, échanger sur un café, et puis se restaurer. La fête c'est fini. Il était 2h du matin, 1h30. Mm-hmm. C'est pour ça que bon, j'ai peut-être la voix un peu enrouée.
Non, mais c'est pas grave, ça passe très bien à radiophonie. C'est parfait. En tout cas, on colle à l'actualité et ça, c'est fabuleux.
Exactement.
Voilà. Allez, on va envoyer la pub. Vous restez avec nous après, parce qu'on a d'autres sujets, naturellement. Vous êtes le témoin de cette émission. Donc, la pub, la musique, et ensuite, on va parler de la récente cérémonie des prix nationaux du Fair Play qui s'est déroulée le 29 novembre dernier.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 50 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
Jusqu'au 15 décembre 2018, la Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose une offre spéciale Noël. 20% de remise sur une large sélection de produits. Et pour toute commande supérieure à 5000 euros, nous vous offrons un panier gourmand aux saveurs gourmandes de la Gascogne. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. À Bastienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little girl. And then
pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet, a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Closing time, I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine, as we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
Votre région avec RVE.
Voilà, alors comme promis, on va vous offrir un petit cadeau de Noël, Jean-Christophe. Ce sont les prix nationaux du fair play, les Irils du sport, hein, remis comme chaque année au CNOSF, à la Maison des Sports à Paris. Alors c'est vrai que c'est une manifestation sur laquelle on allait très souvent dans le passé. On y avait été un peu moins ces dernières années. Puis bon, on a voulu revenir donc une nouvelle fois sur cette épreuve présentée par le speaker du Tour de France, Daniel Mangias. Alors je vais vous donner très rapidement les lauréats pour l'attitude fair play. Pour le prix Micheline, Ostermeyer a été récompensé. Florence Picot, hein, de l'athlétisme, a été aussi récompensé donc pour le prix Nelson Payou. Daniel Narcisse, le joueur de hand français bien connu, tiens, ça tombe bien, on va souhaiter bonne chance à l'équipe de France féminine de hand qui joue sa finale de l'Euro contre la Russie à Bercy aujourd'hui à 17h30. Pour le prix de l'esprit sportif dans les médias, deux personnes qu'on connaît bien dans le prix Jacques Marchand, c'est Jean Réveillon, l'ancien chef des sports de France Télévisions, qui a été récompensé. Puis pour le prix Jean-Paul Brouchon, ça avait été un de nos invités de la fin octobre, Daniel Potras. Pour le prix spécial du jury Fondation Henri Serrandour, c'est Bernard Lapassé, le président d'honneur du COJO Paris 2024 et ex-président de la Fédération française de rugby, qui a été honoré. Et enfin, pour le prix du comité européen de fair play, eh bien, c'est un joueur du Stade français, Talal Legret, joueur troisième ligne, qui avait protégé un joueur dans un groupement, qui a donc été honoré. On va écouter donc quelques interviews. On commence justement avec Talal Legret, qui nous explique en français, hein, et c'est un bel effort, son geste d'avoir protégé donc un de ses adversaires au cours d'un groupement, d'un match de rugby. Allez, je suis avec Talal Legret, qui a été donc récompensé sur le prix européen du fair play. On se rappelle de votre geste.
Ah, merci beaucoup. Merci pour le prix. Jamais pensé que j'avais gagné quelque chose pour ce geste. Mais merci, c'est tout. Oui.
C'est un geste qui est venu naturellement.
Oui, c'est ça. Quand j'ai joué, à le début, on avait marqué l'essai. Et quand j'ai entendu un mec en dessous de moi, il a crié comme ça, j'ai pensé qu'il y a quelque chose pas bien. Et quand j'ai vu que c'était lui, j'ai essayé de protéger pour pas faire plus mal.
Oui. C'est ce qui prouve que même dans le rugby actuellement, même dans le rugby de haut niveau, on peut être encore fair play.
Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Oui. Le rugby, c'est un peu compliqué parce que nous, on essayait de faire mal les autres, mais pas affaiblir. Là, il y a 30 mecs qui sont entrés dans le terrain et j'espère à la fin des matchs et tout le monde peut sortir le terrain aussi.
En tout cas, c'est un bel exemple. Comment ça va la saison avec le Stade français?
Oui, c'est bien. C'est, ouais. Oui, c'est mon premier season ici. Bon, je te plais ici. Les jeunes, les entraîneurs, les coéquipiers, les villes. Oui, c'est vraiment bien. Oui, c'est beaucoup changé à propos de l'année dernière.
Et vous regardez les matchs de l'équipe de France, un peu inquiet pour l'équipe de France?
Oui, c'est un temps compliqué pour eux après les matchs contre Sudaf, un peu de chance là et Fidji, mais ça va venir. Il y a des Six Nations et des Coupes du Monde l'année prochaine.
Merci en tout cas.
Merci.
Merci d'avoir parlé français. Très bien.
Merci beaucoup. J'essayais.
Merci à lui en tout cas, et bel exemple de fair play. Allez maintenant, un habitué, un fidèle, il avait été honoré dans le passé, il est maintenant parmi ceux qui remettent régulièrement les prix, c'est l'ancien champion de ski nautique, hein, Patrice Martin, un des sportifs français les plus titrés. Allez, avec un fidèle de ces prix nationaux de fair play, Patrice Martin. Patrice, je crois que vous n'avez pas raté une seule édition.
Je peux pas dire ça, parce que j'en ai bien loupé une ou deux, notamment l'année dernière. Je ne veux pas dire pourquoi, j'étais à l'étranger, dans des îles. Mais voilà, des fois, malheureusement, on en loupe, mais on aime bien revenir parce que c'est honorer des jeunes et des champions moins jeunes, mais qui ont donné beaucoup de temps au sport et puis qui ont permis aux plus jeunes justement de s'élever, de dire voilà, je veux être comme ça, je veux être comme eux. Et ça, c'est important de savoir féliciter ces gens pour dire ça a servi à quelque chose, que dans ce monde d'aujourd'hui difficile où tout va vite, où on va dire qu'on est assailli dans les réseaux sociaux, dans la télévision un peu partout, d'images choc, de combats, de choses dures à vivre. Et même dans le sport, on en rencontre des moments difficiles. Donc de montrer qu'il faut avoir cette envie de partager, cette envie de faire respecter la règle, cette envie de protéger quand on voit ce rugbyman qui protège son adversaire blessé. Vous voyez, ça c'est les beaux gestes. Et la victoire, elle a pas de valeur, elle a pas de réalité et il n'y a pas de bonheur à partager quand elle est entachée de vol, je vais dire, parce que c'est un moment, c'est un vol, entaché de non-respect à la règle, entaché de conduite antisportive. Voilà, le bonheur, justement, c'est de gagner avec panache ou de perdre avec panache en disant j'ai donné le meilleur de moi-même dans les respects des règles. Et ça, c'est beau.
Est-ce que vous auriez aimé pratiquer le sport de haut niveau, là, de nos jours, à cette époque, avec donc tous ces réseaux sociaux, toute cette pression médiatique?
C'est difficile à dire pour moi. Difficile parce que j'ai vécu un moment où justement on était en partie protégé parce qu'on n'avait pas ces réseaux sociaux. Hier, je faisais une conférence dans une école et j'ai un ami ancien sportif de haut niveau qui est malade actuellement. Et puis on lui a dit, tu peux pas aller faire la conférence, que t'es malade, s'il y a une photo ou quoi que ce soit, vous voyez. Alors, ce qui est logique parce qu'il est malade. Mais voilà, aujourd'hui, il faut faire attention à tout. Si on vous voit là parce que vous êtes dans une soirée avec une personne, ça peut être utilisé, détourné même des fois, alors qu'il n'y a pas de mauvaise intention de votre part. Alors, il faut faire attention à tout. Alors, je crois que j'étais quand même un petit peu en avance avec mon temps parce que j'avais un père photographe. Et un photographe, si vous voulez, il ne regarde pas le sujet de la photo. Très souvent, il regarde l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, il doit être propre, il doit être d'une certaine façon. Et c'est là où moi, il m'a appris aussi toutes ces choses en disant, fais attention où t'es, avec qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Voilà, c'est comment t'es habillé. Mais même quand t'es pas, on va dire, officiel, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, on fait une photo vite fait, une photo volée, ça va vite. Donc c'est vrai qu'il faut encore faire plus attention. Mais je pense que le sport vous apprend justement à faire attention à tout ça.
Bon, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Alors, tout d'abord, professionnellement, je travaille pour une société d'intérim, enfin, qui est dans les ressources humaines de façon globale, on va dire. Je m'occupe des relations publiques. On est beaucoup engagés dans le sport. Le FC Nantes, le Loup Rugby, le Stade Toulousain, dans les conduites automobiles 24 heures du Mans. On avait même un bateau sur la route du Rhum. Vous voyez, on est un petit peu engagé un peu partout. Et puis après, en termes associatifs, président de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard, vice-président de la Fédération Européenne, puis vice-président du CNOSF. Donc ça prend pas mal de temps. Mais justement, le plaisir, c'est de pouvoir partager puis de se dire, on transmet aux autres. On est là un certain temps, mais le but, c'est de se dire on va faire quelque chose. Il y a un renouvellement qui doit s'opérer. Et s'il n'y a pas des plus jeunes qui prennent pas la main, à un moment ou à un autre, ce sont des actions qui vont s'étouffer avec le temps.
Et puis Paris 2024, ça va être fabuleux.
il faut que ce soit fabuleux, et ce sera fabuleux parce qu'il va y avoir un engouement. Alors, qu'on ne sent pas encore complètement, parce qu'il y a Tokyo avant, hein, qui est en ligne de mire, mais ça va arriver. On sent déjà, là, il y a du frissonnement. L'équipe du Kojo Paris 2024 est en train de se renforcer. Elle se développe de plus en plus, et on va avoir des très beaux jeux où on espère qu'il y aura et la liesse populaire et les résultats sportifs, parce qu'il faut qu'il y ait les deux.
Vous allez vous investir ?
Bah, je suis déjà investi, bien sûr. Voilà.
Très bien, merci.
Patrick, merci, bonne journée à vous.
C'est toujours un plaisir de retrouver Patrice Martin. Très intéressant, donc, ce qu'avait dit l'ancien champion de ski nautique. On vous garde Daniel Narcisse et Bono Derien, tiens, pour la semaine prochaine, pendant la rétro. Et on va écouter maintenant Patrick Bono. Il était hier notre invité pour l'association Alti & Co. Et il nous parle de sa prochaine organisation sur Cernay-la-Ville. Ça sera le 6 janvier, ça sera pour le tout début de l'année 2019. Allez, avec Patrick Bono. Patrick, bonjour, de l'association Alti & Co de Cernay-la-Ville. Patrick, bonjour. On va donc parler de ce qui va se passer le 6 janvier. Ça sera le premier gros événement sportif de cette année 2019, à savoir donc ce qu'on appelle ni plus ni moins maintenant le Marathon des Yvelines.
Oui, ben premier rendez-vous non seulement dans les Yvelines, mais sur tout le territoire national, puisqu'on organise pour la sixième année consécutive le 6...
Déjà,
oui. Le premier marathon de France, sur lequel on a greffé le premier semi-marathon de France et un 10 km. Cette année, en plus, on a la joie sur le semi-marathon de faire un petit challenge de Joëlette. Donc, on aura une dizaine de Joëlette qui viendront faire le semi-marathon, et puis on remettra un prix spécial pour les Joëlette.
Alors, c'est quand même devenu l'événement incontournable. Du début d'année sportive, on commence maintenant avec ce rendez-vous de course à pied à Cernay-la-Ville.
Oui, ça fait plaisir de voir la reconnaissance qu'il y a de la part de tous les coureurs. Et puis, parce que c'est une épreuve qui a démarré avec 250 coureurs. Cette année, on s'attend à recevoir plus de 1000 coureurs sur les trois courses, et qui représentent près de 50 départements différents. Donc, c'est pas simplement une région sur l'Île-de-France, voire l'Ouest parisien, mais également des coureurs de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, de Nantes, du nord de la France, de l'Est. Toutes les régions de France sont représentées sur ce marathon, et c'est vraiment qu'il y a une attente par rapport à ça de la part des coureurs.
Et même de beaucoup plus loin. Je me souviens avoir, les années précédentes, interviewé des coureurs belges notamment.
Oui, alors cette année, on fait encore même un peu plus loin, parce que on a...
Et des Chinois.
Des Coréens, oui, ouais. Des Coréens, voilà. Donc les Coréens reviennent cette année encore. Bon, c'est des Coréens de Paris, mais on a la chance d'avoir un Suisse qui va se présenter également sur la course, mais également une dame qui vient des Émirats Arabes, qui est en vacances pendant cette période-là en région parisienne, et qui vient profiter de ses vacances pour courir le premier marathon de France. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous de voir qu'on est, enfin, grâce aux réseaux sociaux, qu'on nous connaît un petit peu partout dans le monde.
Oui, et c'est donc devenu le marathon des Yvelines, hein, qui a remplacé le défunt marathon qui, lui, s'était arrêté il y a quelques années.
Oui, alors le but, c'était pas de le remplacer, c'était d'organiser une nouvelle course. C'était une très très belle épreuve, je me rappelle, qui s'est arrêtée à peu près il y a une dizaine d'années, hein. Et c'est vrai que c'est tombé au moment où les courses sur route commençaient à perdre un petit peu de poids par rapport aux courses nature, aux trails, etc. Donc le marathon des Yvelines, qui avait lieu à La Queue en Yvelines, je crois, hein, a dû mettre la clé sous la porte faute de coureurs. Et je pense que la chance qu'on a sur notre épreuve, c'est qu'elle a lieu le premier dimanche de janvier. Si on organisait cette même épreuve au mois de mai ou au mois de juin, on ferait un petit peu pareil, on ferait très très peu de coureurs, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves à cette époque-là.
Alors c'est vrai que de plus en plus, on voit des épreuves comme ça, j'allais dire, hors saison. Bon, il y a la course des Quatre Châteaux au mois de novembre, il y a ce marathon des Yvelines, on a Cernay-la-Ville, on a donc Bullion, pardon, pour le semi-marathon au mois de février. De plus en plus, on voit des épreuves comme ça, hors saison.
Oui, bah parce que le calendrier... Alors, je me rappelle, au début, qu'on avait créé les foulées cernésiennes avec l'association, c'était en 2001, sur les commissions départementales, on disait qu'il y avait 40 épreuves à l'année. Cette année, en 2019, il prévoit plus de 80 épreuves. Donc 80 épreuves sur 50 week-ends, sachant que tous les week-ends ne sont pris, donc on va prendre sur 30 week-ends, ça fait 3 épreuves par week-end. Donc il faut trouver des dates où on peut avoir des coureurs, parce qu'il y a de plus en plus de coureurs, mais s'il y a de plus en plus de manifestations, on a de moins en moins de coureurs sur d'autres manifestations, ce qui se comprend. Maintenant, c'est vrai que le coût d'une organisation est toujours la même. Et c'est pas parce qu'on a moins de coureurs ou plus de coureurs que ça coûte moins cher. Il faut vraiment pouvoir remplir pour que les courses existent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de coureurs. Donc nous, pour avoir beaucoup de coureurs et pour qu'on puisse vivre, on se met à une date où il n'y a personne. Les gens aiment les défis. Ils se disent, mais courir tout de suite après les fêtes, c'est fou. Ils pensent que c'est fou et puis après, ils s'inscrivent.
Alors, il y a le marathon. Et puis depuis quelques saisons, on a aussi innové. On a créé un semi-marathon et un 10 km.
Oui, alors le semi-marathon, c'est bien sûr pour attirer un peu plus de monde. Et le 10 km, c'était pour les accompagnateurs. Il y avait des gens qui accompagnaient, qui attendaient, qui disaient, ben oui, moi je viens, j'accompagne mon mari, mais bon, je cours pas un marathon. On s'est dit, mais 10 km, vous auriez couru? Ben ouais, j'aurais couru. Donc, c'est pour faire courir les familles, en fait. C'est pour compléter. Donc, il y a des familles, le père fait le marathon ou la mère. Et inversement, qui fait la mère ou le père qui fait le semi-marathon et les enfants qui font le 10 km. Donc, pour nous, voilà, faut que ce soit une épreuve familiale.
Alors, ça représente combien de coureurs qui sont attendus à Cernay ce premier dimanche du mois de janvier? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, Patrick? Est-ce que c'est pas trop tard?
Oui, ben alors au point de vue marathon, il reste 15 places, donc on va être complet et on attend plus de 1000 coureurs sur Cernay, donc on va pas être loin de doubler encore cette année la population de Cernay. Oui.
Il y a une date limite pour s'inscrire? On peut même s'inscrire sans place, non?
Alors non, c'est très difficile parce que quand il faut gérer les remises de dossards sur place, non, la date limite c'est le 31 décembre. D'accord. Donc voilà.
Juste avant le réveillon, alors pour s'inscrire.
Voilà, entre deux coupes de champagne, allez, un petit défi, allez vite, t'as encore 2 heures pour t'inscrire et voilà, donc jusqu'au 31 décembre. Et je vous m'en pense, c'est que là sur les 2 dernières semaines, on va encore faire 200 coureurs qui vont s'inscrire. On a toujours des coureurs qui s'inscrivent au dernier moment.
Voilà. Et puis naturellement, donc un parcours pas trop changé qui va emprunter justement le fameux parcours qui se déroule à Bullion, le fameux semi qui se déroule à Bullion.
Oui, on a une partie commune sur Bullion. Bah, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un secteur qui est très prisé, notamment sur les petites routes de campagne qui sont très jolies. Les coureurs qui viennent, moi je me rappelle les dernières, il y a des coureurs qui sont venus de Nantes et ont vu deux biches traverser la route. Ils ont eu cette chance-là. Alors on a un secteur, que ce soit sur route ou que ce soit en forêt, qui est très prisé avec les Vosges de Cernay. On a une très belle région, on en fait profiter nos coureurs plutôt que de les faire tourner sur une boucle de 5 km. Ce serait beaucoup plus simple pour nous de faire des boucles, mais non, on les amène sur Bullion, la Selle des Bords, on garde toujours un peu le même parcours. Pourquoi on garde le même parcours aussi? Parce qu'il est mesuré officiellement. Mmh. Et pour trouver un parcours qui fait 42 km 195, alors que nous on a que des routes, on n'a pas des rues, on a intérêt à garder d'autres parcours.
Alors parcours pour homme fort, parcours sélectif?
Alors sélectif, oui, sélectif, mais il y a quelque chose, c'est très paradoxal par rapport à ça, c'est qu'on a des coureurs qui ont déjà couru 15, 20, 25, 30 marathons, et même s'il n'est pas plat, on a eu la chance d'avoir des coureurs qui ont battu leur record sur marathon, après 30 marathons. Alors la raison, c'est que c'est des coureurs qui viennent pour ouvrir la saison, faire une sortie longue, qui viennent sans pression, sans montre, qui ne prennent pas leur temps à tous les 10 km, ils font ça au feeling, et ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils ont battu le record. Et c'est arrivé à de nombreux coureurs, et des coureurs qui couraient depuis 15 ans, 20 ans, pas que des novices. Alors, donc pour nous, c'est vraiment une joie. Et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir sur le marathon un record du monde qui a été battu, le record du monde sur marathon d'un non-voyant sans assistance.
Oui, j'allais en parler justement parce qu'on a vu l'occasion de l'interviewer.
Clément Gasse qui est venu, donc qui a son record a été validé et qui se représente cette année. On va certainement lui remettre un trophée pour symboliser son record de l'année dernière. Mais voilà, on a le parcours n'est pas simple, mais comme les gens ne sont pas en pleine saison, viennent pour une sortie longue, ils viennent sans stress et parfois ils battent leur record sur marathon.
Alors tout ça nécessite beaucoup de bénévoles, hein. Je sais que vous chérissez bien vos bénévoles, hein. Vous les recevez à l'auberge du Bout du Pré ou bien au Léopold de Cernay-la-Ville, mais c'est hyper important, Patrick, il ne faut pas les oublier, jamais les oublier.
Mais non, mais sans eux, on fait quoi? C'est parfois quelques coureurs, alors c'est vraiment une minorité de coureurs, mais quelques coureurs des fois se rendent pas compte que le coureur, quand eux ils passent et qu'ils passent 2 heures sur leur course, le bénévole est 5 heures sur le parcours par tous les temps. Donc c'est plus que des bénévoles, on les appelle bénévoles par le nom, mais ce sont des amis. J'ai eu la chance d'avoir des amis, c'est une 50aine de personnes qui m'entourent pour encadrer cette course. Et il n'y en a pas assez parce que ben, au point de vue sécurité on a besoin de monde, et j'aimerais bien que il y en a qui font le parking le matin à 7h, après qui vont un point sur à 9h et qui finissent vers midi, une heure de l'après-midi, donc il reste 6 heures sur le bitume. J'aimerais bien d'avoir d'autres bénévoles, mais c'est vrai que c'est de plus en plus une denrée rare, Et il y a des courses qui ont été annulées l'année dernière à cause de manque de bénévoles. Donc c'est vrai que c'est important que je chérisse mes bénévoles. On fait des petites soirées comme ça. Et pour moi, c'est important parce que le jour de la course, je ne les vois pas. Je suis au four au moulin et je peux pas profiter de. Donc derrière, on se fait des petites paella parties. Je les reçois pour des petits déjeuners, mais je leur dois bien ça. Je leur dois bien ça.
Alors, il y a des gens de Sarnay-la-Ville, même de l'entente Omnisport Sarnay-la-Ville, mais il n'y a pas que Sarnay-la-Ville. Il y a les clubs de course à pied avoisinants qu'on connaît bien ici dans nos studios.
Ben oui, oui. Ben il y a l'équipe du Raid 28 oui. qui est là, qui est présente et qui nous fournit un gros vivier de bénévoles avec le plus important. Enfin, Patrick Pilorget et son équipe. Hein, je ne vais pas citer que lui, mais je cite Patrick Pilorget pour citer tout le monde. C'est quelqu'un qui sait ramener des gens et c'est quelqu'un qui est organisateur pour les coureurs. Il n'est pas organisateur pour lui, il est organisateur pour les coureurs. Donc il s'entoure de gens qui aiment les coureurs et donc il nous fait profiter de ces bénévoles qui viennent là et qui sont au service des coureurs. C'est pour ça que Patrick Pilorget et quelques-uns de ses bénévoles sont venus comme bénévole sur l'Ultra Trace de Saint-Jacques. L'Ultra Trace de Saint-Jacques, c'est de 5h du matin à 21h, et à s'occuper des coureurs, et c'est des gens qui sont dévoués. Donc quand on a une équipe comme ça, on peut que bien avancer.
Oui, alors justement, ils sont venus la semaine dernière nous parler du Raid 28. Hein, je voulais apporter un petit rectificatif. On avait parlé de M. Villani, le député de l'Essonne. Il est député, il n'est pas encore au gouvernement. Hein, mais enfin, comme on était sorti d'un téléthon, on était un peu fatigué. Le téléthon, d'ailleurs, on a pu vous diffuser des émissions, une émission spéciale sur tout ce qu'on avait ramené la semaine dernière dans la région. C'était mardi entre 10h et 11h, après le direct qu'on avait fait la semaine dernière à Bullion avec Simon Violent. Et puis, il y a aussi peut-être Stéphane Schubert, qu'on connaît aussi, qui vient aussi régulièrement pour la course des quatre châteaux.
Ben Stéphane, c'est pareil, hein, il me propose des bénévoles, il me propose de l'aide, il me propose du matériel. C'est vrai qu'on a besoin de pas mal de choses, donc avec des gens comme ça, on arrive à mettre des affaires en commun, on se prête des affaires, voilà, c'est des gens qui ont une très bonne mentalité, moi je m'appuie sur eux, je prends exemple sur eux, hein, c'est des gens qui sont merveilleux, donc, et puis derrière, c'est à moi de leur rendre la pièce, hein, quand ils ont besoin, ben, voilà, si je cours pas leur course, eh ben, je vais les aider.
Qu'est-ce qu'on gagne comme lot, Patrick, aussi?
Ben, déjà, on paye pour courir.
Combien en moyenne?
Alors, actuellement, le marathon, il est à 50 euros, 50-55 euros. Le semi-marathon à 30 euros et le 10 km, les derniers jours, sont à 13 euros. Mais pour les personnes qui se sont inscrites les premiers, le marathon était à 35 euros et le semi-marathon à 18 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben, on a la médaille souvenir pour le marathon et pour le semi-marathon. Cette année, ce sera en forme de galette des rois avec une couronne. Et puis, un lot, on a un beau coupe-vent cette année qu'on fait faire grâce à quelques sponsors. Et puis, ben, le sourire de tous les bénévoles.
Et puis, il y a quand même des partenaires aussi fidèles, notamment les commerçants de Sarnay. Faut pas les oublier parce qu'à chaque fois, ils jouent le jeu. Que ce soit pour les foulées sarnaisiennes au mois de mai ou pour le Montreuil ou pour votre épreuve, ils sont toujours présents.
Oui, oui, on a cette chance-là, hein, on a cette chance-là, parce que ben c'est comme partout, on est une petite commune et ces commerçants sont constamment sollicités, mais ils savent répondre toujours par l'affirmative. Et ils ont envie de faire vivre leur village. On a la chance d'avoir un village avec des commerces. Ces gens-là nous aident et pour nous c'est très important. Et on espère que derrière il y a un retour. Moi, quand j'entends qu'un coureur derrière a acheté sa baguette de pain ou il s'est arrêté au casino pour s'acheter un coca ou quelque chose comme ça, ben ça me fait plaisir parce qu'au moins ça fait vivre mon village dans tous les sens du terme.
Alors, on va rappeler les possibilités pour s'inscrire. On peut encore le faire. Et puis, on va rappeler aussi les différents horaires. Chaque dirigeant est dédié à chaque bénévole, chaque dirigeant est dédié à une propre course.
Alors, on gère tout d'un coup, mais pas chaque bénévole a son secteur. Hein. On a un secteur sur Bullion, secteur sur la Selle des Bords, secteur du côté de la route de Rambouillet et puis sur Sarnay. On a nos ravitaillements. On a 5 ravitaillements sur le marathon et 3 sur le semi-marathon. Et puis après, on a toutes les personnes qui sont à l'accueil pour les remises de dossards, les ravitaillements, les consignes. Donc voilà, donc on va accueillir les coureurs à partir de 7h30 le matin le dimanche. Le départ du marathon, il est à 8h45. Le départ du semi-marathon est à 9h15. Alors entre les deux, eh ben, il y aura un petit départ des Joëlettes. Hein, et à 9h45, il y aura le départ du 10 km.
D'accord, ok.
avec remise officielle en plus de, des prix aux alentours de 12h-12h30.
Alors pour un peu plus tôt pour le semi-marathon et pour le 10 km, en gros le semi-marathon ça va se faire autour de 11h-11h15 et puis vers vers midi les comment dire la remise des prix pour les pour le marathon. Alors on a eu 5 fois le vainqueur, la présence de Gaspard Fonbonne qui a gagné 4 fois et la 5e fois il a pas pu la gagner, enfin il y a 3 ans parce que il avait raté son train, il a pris un temps de nuit, il a pas pu dormir dedans, donc il était fatigué, mais je pense que cette année il va remettre encore son titre en jeu et c'est vraiment un plaisir parce que c'est un coureur qui correspond totalement à notre à la mentalité de notre...
Il le bat son corps à chaque fois.
Et à chaque fois, et puis il le bat, il gagne 2-3 minutes, sachant que la première fois il avait couru un marathon, c'était à Cernay-la-Ville et c'était son premier marathon et il avait gagné. Donc de grosse, grosse qualité.
Alors, il y aura ce marathon, ce semi et ce 10 km, et puis ensuite, vous allez souffler quelques mois et vous allez repartir pour le Mont-Trail. Il n'y a pas de Trail des Villes Royales, il n'y a pas d'Ultra Trail cette année.
Alors, le Trail des Villes Royales, c'est une course qui a lieu tous les 2 ans, donc pour diverses raisons, principalement, ça fait beaucoup de boulot. Moi, on gère ça, c'est une association familiale avec des copains, mais c'est quand même pas mal de travail. Et puis, les bénévoles, il faut quand même les faire souffler un petit peu, donc 2 courses en 2 mois parfois ça peut être dur, donc on a décidé de faire tous les 2 ans pour essayer de faire le plein aussi au niveau de la course. Après au mois de mai eh ben on aura le 5 mai le contre-la-montre-trail et l'Ultra Trace Saint-Jacques aura lieu peut-être la prochaine édition dans l'année prochaine mais ce sera en accord avec tous les coureurs qu'on a eu et puis essayer de faire un gros jubilé de coureurs sur l'Ultra Trace de Saint-Jacques l'année prochaine, en espérant que on vous aura encore comme partenaire avec tous les directs qu'on avait eu le plaisir de faire le soir, quand on pense qu'on était en plein centre de Nogaro et que c'était RVE qui retransmettait la course.
Écoutez, dans toute la France, via Internet.
Et en Belgique, et je me rappelle, et donc via Internet, donc c'était vraiment de très 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 grands moments, et j'espère qu'on pourra revivre ça.
Il n'y a pas de raison. Alors, il y a aussi les foulées cernelsiennes. Bon, les dirigeants viennent nous en parler, vous êtes à l'origine de cette épreuve. Bon, on a parlé du semi de Bullion, il y a le semi de Rambouillet, il y a la corrida aussi de Rambouillet dont on a parlé donc la semaine dernière et sur laquelle on va revenir donc au cours de cette émission. Il y a la course du château, il y a les 4 châteaux aussi au mois de novembre. On est gâté quand même, Patrick.
Puis on a eu le rigole.
Oui, puis le rigole avec Jacques Poigny, c'est vrai, on a aussi parlé.
Alors, je suis content parce que j'ai participé à la grande et enfin, ils ont battu leur record d'arrivant. Donc, bon, c'était une course qui était très très dure, non. Mais on a un vivier de course, on a un vivier de bonne volonté dans le secteur qui est impressionnante. Il y a Bonnel aussi, il y a... Enfin, voilà.
On peut pas parler de tout, mais on parle de beaucoup de courses quand même.
Oui, non, mais et puis vous faites bien votre boulot, quoi. Je sais que RVE est toujours là, toujours présent. Moi, j'ai souvenir sur la première édition du marathon, vous étiez là à suivre les coureurs. Donc, non, c'est vrai qu'on a un vivier. Et puis, c'est des courses qui sont ancrées, qui sont attendues par les coureurs. Les foulées cernésiennes, c'est attendu. Les 4 châteaux, ça se remplit en peu de temps. Enfin, on a vraiment un terrain de jeu. Et je parle surtout pour mes copains organisateurs. S'ils ont tant de monde, c'est vraiment un gage de qualité. C'est qu'ils savent recevoir les coureurs, ils savent leur faire plaisir et trouver des beaux parcours.
Oui, puis entre vous, vous connaissez, il n'y a pas de concurrence, vous essayez que finalement il y ait une date qui coïncide pour tout le monde, parce que vous avez les mêmes difficultés quand même. Paradoxalement, organiser ça devient plus compliqué, et pourtant il y a une palanquée d'épreuves de plus en plus entre la route et puis le trail.
Oui, de toute manière, avant les commissions départementales, on s'envoie des mails, on se téléphone, et on se dit, bon, alors quand est-ce que tu fais ta date, quand c'est ta course, et puis on se met d'accord. Le but, c'est que toutes nos courses vivent. Si on met 2 courses le même jour, automatiquement, il y aura pas plus de coureurs sur les 2 courses, mais en tout, mais les coureurs vont devoir choisir. Donc, alors, autant se mettre d'accord sur les dates, et puis et que tout le monde soit content.
Et vous, sur un plan personnel, cette fois-ci côté sportif, sur le terrain, on vous avait reçu l'année dernière hein, pour votre fabuleux défi qui a été donc gagné en concurrent donc trois continents. Hein. Ça vous avait d'ailleurs valu un prix au comité départemental olympique et sportif. Quels sont les autres projets là dans les prochains mois, peut-être même prochaines années?
Alors, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que c'est vrai que ça a été quand même presque 40 jours d'effort non-stop. Je m'en suis remis et j'en suis content. Je reprends beaucoup de sensations Et puis ben, je commence à avoir l'esprit qui me titille. Donc,
c'est pour ça que je pose des questions. Vous êtes toujours en avance d'un combat, comme on dit.
Oui, donc ben, pourquoi pas augmenter la distance l'année prochaine.
5 continents maintenant, au lieu de 3.
Alors 5 continents, non. Peut-être 3 continents quand même. Hein, le projet, bon, 3 continents, mais en un peu plus difficile. Un peu plus difficile, un peu plus long. Quand on voit que le corps est capable de supporter 300 km dans le désert de Gobi, la traversée des États-Unis en vélo, et puis un Lyon-Paris à pied, ben on se dit ben peut-être qu'il peut supporter encore un peu plus, donc on va tester la machine.
D'accord. Merci Patrick, bonne fin d'année. Y a un petit souhait, un petit vœu par avance pour l'année qui arrive en 2019?
Oui, ben plusieurs. Déjà, moi, je souhaite que RVE continue à être là, être présent.
Il n'y aura pas de problème.
Non, mais c'est vrai que vous travaillez beaucoup dans l'ombre, mais on vous voit partout, hein, donc merci. Le souhait, c'est que ben, tout le monde se fasse plaisir. On est là pour organiser, les gens sont là pour courir. On se fait plaisir à organiser, les gens se font plaisir à courir. Et puis, ben, que tout se passe le mieux, qu'il y ait une belle année sportive, une belle année en tout. Hein, on approche des JO, tout va se préparer en France, là. Donc, ça a été arrivé à grande vitesse grand V. Il y a des gens qui vont être sollicités, il y a des épreuves qui vont se mettre en place. Donc, moi, mes souhaits, c'est que voilà, que tout le monde se prenne du plaisir dans ce qu'il fait. Et puis voilà.
Merci en tout cas, Patrick. Et puis, bah, bonne fin d'année. Puis, rendez-vous donc le 6 janvier.
Oui, avec plaisir, Philippe. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant. Alors, plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Bon, bah Jean-Christophe, c'est passé très vite, hein, entre donc le résumé de cette épreuve de la corrida d'hier, Patrick Bonneau qu'on a pu entendre, et puis quelques lauréats des prix nationaux du fair play. On y ajoutera Daniel Narcisse et Bruno Dorien la semaine prochaine dans notre grande émission de rétro. Vous restez avec nous la semaine prochaine, hein. 10h midi, on va revenir sur les temps forts de cette exceptionnelle année sportive 2018. Bon, vous allez vous reposer cet après-midi?
Oui, on va essayer de se reposer. Ouais. Alors bon, on a encore un peu de ménage à faire, mais c'est comme toutes les courses, quoi, la pression va redescendre. Hein. On a quelques jours où ça va redescendre. Mm-hmm. Maintenant, c'est habituel dans toutes ces courses-là.
Oui, hein, oui. Bon, en tout cas, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, hein, dès cet après-midi, et puis également toute l'aile de l'année 2018, hein, si vous le souhaitez, pour bien vous reposer. Et on vous verra peut-être avec Patrick Bonneau le 6 janvier, non?
On essaiera.
Ouais,
on essaiera.
Ouais, ouais. Bon, vous vous connaissez entre vous. Hein. On l'a souvent dit, on l'a souvent donc répété. La course à pied, bah, c'est un petit milieu où vous avez tous les mêmes contraintes d'organisation, non notamment pour mettre des pieds, pour avoir certaines autorisations, ce qui est pas toujours facile.
Oui, alors on se réunit souvent. On a un comité hein, où on se réunit souvent pour pouvoir voir un petit peu quand est-ce qu'on place nos courses. Et puis on échange, on se donne souvent des coups de main parce qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles.
Ah oui.
Mmh. Ah, c'est toujours pareil. Chaque club essaye de monter sa petite course pour pouvoir animer le sport qu'on aime. Et puis, en même temps, amener un peu de financement dans les clubs parce que c'est toujours pas évident. Et puis, on se donne des coups de main entre nous pour le bénévolat. C'est un petit peu tout ça, quoi. Puis heureusement qu'il y a des émissions comme vous qui permettent de relayer un petit peu notre sport.
Hein, voilà. On est là pour ça. C'est toujours avec un énorme plaisir. Merci en tout cas, donc Jean-Christophe. Bon repos.
Oui, merci
Bonne
Philippe.
Bonne fin d'année.
Oui, toi aussi. Hein, en tout cas, merci. C'est toujours très sympathique de venir dans vos émissions. Hein. C'est toujours très sympa. Voilà,
et puis, on va remercier Bastien qui a été sur le qui-vive ce matin, mais qui nous a encore mené ça demain de maître. N'oubliez pas, donc, la semaine prochaine, la grosse rétro, 10h midi. Ensuite, on marquera un petit dimanche de repos, hein, le 30, et puis on reviendra au tout début du mois de janvier avec Tribune Foot dès le 6. Voilà, et ensuite, ça sera la reprise des émissions Tribune Sport avec le 13 et les sections Escrime. Et puis, le tennis club de la Carrière le 20. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter en matière de sport. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci encore. Et puis, plus que jamais, vive le sport.
Oui, vive le sport. Et puis, merci encore. Voilà. Merci à tout le monde.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Un accord à minima cette nuit à la COP24 en Pologne. La communauté internationale s'est mise d'accord sur les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Beaucoup estiment ce compromis insuffisant pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, notamment parce que les engagements de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas assez ambitieux. Mais avec 30 heures de retard, le mode d'emploi d'une centaine de pages fixe déjà les modalités de suivi des actions nationales. De nombreux dirigeants politiques voient cette avancée comme une victoire. C'est le cas d'Emmanuel Macron ou de la ministre espagnole de l'Environnement qui écrit « Dans les circonstances actuelles, continuer à construire notre bâtiment est déjà une réussite ».